C'est une séance difficile, hein. Donc vous allez comprendre une partie, et même beaucoup d'entre vous, vous allez tout comprendre. Mais les parties que vous ne comprenez pas, ben, vous ne comprenez pas, mais il y a quand même une partie que vous comprendrez. Alors le premier titre, c'était pour en finir avec. Donc c'était un titre un peu polémique, et alors j'ai réduit un peu la voilure, et ça sera un peu plus général, parce que j'ai pas eu le temps de me plonger dans ceux avec qui je voulais en finir. C'est-à-dire Dawkins, Somfray et Comte-Sponville, spécialement. Mais on va tâcher d'avoir une vue d'ensemble sur la jeunesse de l'athéisme et les principales questions qu'il pose ou sous forme d'objection à l'existence de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir d'une cause extérieure au monde, d'un principe transcendant du monde. Alors pour ça, je me suis beaucoup inspiré. Vous avez une petite bibliographie à la fin. Hein, c'est un sujet un peu délicat. Comme tout ce qui est négatif, c'est si on veut aller à fond, c'est vraiment infini. Et je vous ai mis une petite bibliographie. Vous avez des classiques dans l'ordre, je dirais, littéraire. Un livre que le père de Lubach a écrit pendant la guerre, qui est beaucoup orienté sur Nietzsche, est assez intéressant de ce point de vue-là. Il l'a écrit, c'était encore sous l'occupation, Le drame de l'humanisme athée. Et puis quelques interventions plus courtes. Un article de notre revue, qui est précisément une analyse assez complète de Dawkins, donc, qui est donc une des dernières présentations de l'athéisme. Et enfin, ce dont je vais beaucoup m'inspirer, il y a des choses un peu plus des références un peu plus approfondies à Gaboriau que je vous ai mis, mais je vais beaucoup m'inspirer d'un article d'un dominicain suisse qui est un successeur du cardinal Journet dans la revue Nova et Cetera, qui a fait une vue d'ensemble sur cette question. Alors premièrement, on va regarder un peu, on va essayer de c'est un terrain un peu miné parce que c'est des mots qui sont assez riches et qui ont des voisins et des synonymes. Alors, on va essayer de bien préciser de quoi on va parler et d'où ça sort, dans la mesure où ça a une unité, ce qui est un peu difficile parce que précisément l'erreur est éclatée. Si vous voulez, la vérité c'est quelque chose d'un, mais l'erreur a toujours une certaine notion de multiplicité d'éclatement. Donc, il faut bien distinguer l'athéisme de, j'allais dire, pas de ses contrefaçons, mais de ses préparations ou de ses voisinages. L'athéisme, c'est précisément la doctrine qui consiste à nier catégoriquement l'existence de l'être suprême. Mais autour de ça, alors on va en parler assez abondamment, autour de ça, vous avez des choses qui en sont voisines, ou qui le préparent, ou qui l'accompagnent, ou qui l'entourent, et qu'on appelle habituellement l'agnosticisme. C'est un composé de deux mots, d'un mot grec avec une particule privative, qui veut dire « on ne sait pas ». Alors l'agnosticisme, c'est vraiment un champ absolument énorme, j'ai voulu me plonger là-dedans, mais j'ai eu quelques autres occupations qui m'ont empêché d'aller jusqu'au bout. Gnos, ça veut dire connaître. Agnosticisme, ça veut dire on ne sait pas. Oui. Alors l'agnosticisme radical, au sens propre du terme, c'est celui qui dit qu'on ne peut rien dire, non seulement sur la nature de Dieu, ce qui a quelque chose d'un peu vrai, on l'a vu dans la dernière séance, hein, puisque Dieu est atteint de façon relative, indirecte et éminente, mais il dit on ne peut non plus rien dire sur son existence. Donc ça, c'est une chose extrêmement répandue, et un des mérites du livre de Dawkins, c'est qu'il situe, si vous voulez, dans un éventail de 7 catégories, entre l'athée pur et dur et le théiste pur et dur, il fait 7 catégories, vous avez l'athée pur et dur, vous avez l'agnostique qui penche, l'athée de facto, l'athée pratique, ensuite vous avez l'agnostique qui penche vers l'athéisme, vous avez l'agnostique qui est complètement entre les deux, et puis la même gradation de l'autre côté. Donc il a assez bien senti un petit peu ses nuances, c'est peut-être un des aspects intéressants de son bouquin. Donc l'agnosticisme, c'est dire « je ne sais pas ». Oui. Et on ne sait pas. Plus généralement, l'agnosticisme spéculatif, c'est dire « on ne sait pas si Dieu existe ou pas ». Et alors vous avez une forme plus courante de l'agnosticisme qui consiste à dire « bon, eh ben, quant à moi, je ne sais pas ». Ça, c'est l'agnosticisme pratique. Et je crois que c'est peut-être le plus répandu. C'est-à-dire, bon, parce que les gens ne sont pas forcément agressifs, ils disent « bon, mais moi, quant à moi, je ne sais pas ». Donc je suis dans une position de non-connaissance, je suis agnostique, au moins pratiquement. Alors, je précise donc que l'athéisme dont on va parler, c'est nier l'existence de Dieu. Soit en prétendant qu'on va démontrer cette négation, soit en la posant, on va voir Nietzsche par exemple, en la posant comme une décision. Mais c'est une négation spéculative. Alors, cette négation spéculative est préparée et a pour conséquence des attitudes pratiques qui sont très répandues. L'athéisme pratique, j'en ai dit un mot, parce que c'est celui dans lequel baignent la plupart des athées. C'est-à-dire où des attitudes athées Alors, on assimile ça à l'athéisme, mais c'est quand même un petit peu plus dans le domaine concret. L'athéisme pratique, ça consiste à exclure Dieu de la vie concrète. Même si Dieu existe, on vit comme s'il n'existait pas. Il y a une phrase célèbre, c'est de dire « Axi Deus non daretur », c'est une phrase qui est prise d'un philosophe, et on peut démontrer les mécanismes du monde, « Axi Deus non daretur », comme si au fond Dieu n'existait pas. Et ça, c'est très répandu dans le domaine de la vie concrète, évidemment, surtout morale et politique. C'est qu'il y a des gens qui s'occupent pas du problème de Dieu dans leur tête, ou ont une idée sur le problème de Dieu, mais qui vivent exactement dans la morale ou dans la politique, comme s'il n'y avait aucune source transcendante du monde, aucun élément extérieur à l'ensemble des choses que l'homme peut atteindre d'une façon ou d'une autre. Donc ça, ça a une importance considérable. L'indifférence religieuse, qui est aujourd'hui très très répandue, est une forme d'athéisme pratique. Indifférence totale, quoi. Quoi qu'il en soit, je m'en fous, ça m'est égal. Hein. Bon. Le laïcisme, donc c'est l'impact politique de l'athéisme, c'est le laïcisme poussé jusqu'à l'athéisme d'État. Je ne parle pas d'une certaine laïcité, d'une juste distinction des pouvoirs, ou même séparation, mais le mot est mauvais, mais enfin on l'emploie maintenant parfois, en fait, dans le sens d'une distinction. Bah, malheureusement, le magistère a employé deux ou trois fois dans ce sens-là, mais ce n'est pas un sens très précis. Enfin, ce qu'il visait, c'est plutôt une distinction, mais quand même une influence mutuelle, et surtout une influence du religieux et du moral sur la sphère publique. Bon. Et donc, ça, c'est une chose. Mais l'athéisme d'État, qui est quand même qui a été radicalisé, si vous voulez, dans le marxisme, et qui l'est encore dans certains pays, mais qui, en fait, concrètement, est un peu ce que vivent pas mal de pays de la sphère du monde qu'on appelait autrefois libre, hein, la sphère occidentale. Bon. Alors ça, c'est une chose qui est importante, avec des nuances infinies. Et c'est deux dans quoi on vit, un athéisme pratique. Et donc, contre cet athéisme pratique, ce qui compte, c'est d'avoir une attitude pratique qui n'est pas athée. Quoi. Vous dites votre angélus au début du repas, ou votre bénédicité, enfin, sous la forme que vous connaissez, même quand il y a des invités, par exemple. Enfin, je dis ça rien que pour vous casser les pieds un peu, et pour éviter que vous endormiez dès le début du café-café. Mais il faut des trucs concrets, quoi. Les athées vivent avec aucune marque extérieure de trucs, le dimanche, nous on se met en beau, on va à la messe. Enfin, je dis ça encore pour vous embêter, quoi. Parce que je sais que vous allez à la messe le samedi soir, en bout de jean. Bon. Mais alors, donc, voilà, ça je laisse de côté, c'est très important, je ne laisse pas de côté parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce qu'on va parler de la source de ça, qui est l'athéisme spéculatif. Alors j'ai mis une petite citation de Vatican II, la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, qui est assez topique, pour montrer que dans la genèse de l'athéisme, il y a des choses dans lesquelles, évidemment, les croyants, et parfois même l'organisation même des croyants, ponctuellement, pour un certain temps, ou dans des défaillances qu'elle a, ont une certaine part dans la genèse de l'athéisme. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pour autant s'auto-flageller sans fin, mais c'est une chose qu'il faut reconnaître, parce que sinon on est en dehors de la vérité. Soit par la négligence dans l'éducation de leur foi, je pense qu'une des grandes sources de l'athéisme, c'est la nullité des chrétiens, pour rendre raison de l'espérance qui est en eux. Mais si dans votre bureau vous avez un gars qui est agrégé et doctorant, et qui est catho, et qui n'est pas capable de répondre à la première question du catéchisme de Saint-Pilice, alors vous allez dire, c'est qui Saint-Pilice? Je ne vais pas poursuivre, pas vous gêner. Mais bon, et ben on se dit, ben le mec, franchement, la religion, c'est pas tellement important pour lui. Ce qui compte, c'est son agrégation, quoi. Et pour ceux qui font du fric, encore plus, c'est le total qui va tomber dans leur compte à la fin du mois. Même s'il est catho, quoi. Mais s'il n'est pas capable de répondre à un truc, il dit, moi, tu vois, ma foi, c'est moi, mais toi, moi, je préfère pas en parler, ça reste purement privé. Alors le gars, il se dit, bon, ben, si la foi est purement privée, c'est pas quelque chose de très puissant, quoi. Vous voyez? Parce que quand même, ça doit marquer notre vie. Donc, la négligence dans l'éducation de la foi, donc, évidemment, on engueule les gens qui viennent se former parce qu'ils sont là sous la main. Non. C'est un peu injuste. Vous venez vous former au café caté, c'est pas uniquement pour la bière que vous venez. Bon. Les présentations trompeuses de la doctrine, on va le voir qu'à mon avis, l'athéisme spéculatif sort d'une espèce de piété mal comprise et d'un spiritualisme déconnecté de la matière, hein, en grande partie. Bon. Et aussi par des défaillances dans leur vie religieuse, morale et sociale. Évident, on dit que Heidegger aurait perdu la foi, qui était catholique, il a été scandalisé par un prêtre pour une chose grave dans son enfant. C'est-à-dire pas tout à fait élucidé, mais voilà. Donc il y a des cas gravissimes, hein, dans lesquels donc, l'agir moral des chrétiens a une influence sur la chute dans l'athéisme ou l'abandon de ce qui reste encore de religion chez les gens. Alors nous allons essayer de réfléchir à la source de tout ça, de l'athéisme pratique, qui est l'athéisme théorique, donc une certaine affirmation, une position spéculative. Bon, il n'y a pas de quelque chose en dehors de l'univers. Vous voyez. Quand on dit Dieu, c'est un principe qui est distinct de l'univers qui nous est accessible. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, l'athéisme est un luxe de monothéisme. et même peut-être de chrétiens. Parce qu'en fait, l'athéisme naît en contexte chrétien, me semble-t-il. Je ne parle pas de... Évidemment, on peut dire en un sens, je vous l'ai dit parfois, qu'on peut considérer que le bouddhisme est une forme d'athéisme, mais justement là, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. C'est un autre contexte culturel et ça suppose des références philosophiques un peu d'un autre ordre. Mais l'athéisme tel qu'il se présente à nous, l'athéisme positif qui se présente même parfois comme humanisme ou comme etc., le drame de l'humanisme athée, le titre du père de Lubac, celui-là, il est né en contexte monothéiste. Et les auteurs que j'ai étudiés assignent deux sources à ça. Assez curieusement, c'est l'enthousiasme religieux, si vous voulez, non éclairé. Vous voyez, chez les stoïciens, par exemple, qui ont beaucoup influencé, pour une bonne part, en partie les pères de l'Église, pour la part morale, ils ont une influence assez positive. On voit que saint Thomas, qui cite le plus après Aristote en morale, c'est Cicéron, quoi. Qui était quand même un peu de... c'est une des sources, si vous voulez, d'un certain stoïcisme. Et alors, les techniciens me redresseront peut-être, mais ce n'est pas le but de faire un cours d'histoire de philo. Mais alors, ces gens-là, si vous voulez, il y a un tel enthousiasme religieux, si vous voulez, qu'on baigne dans une chose, bon, qui est peut-être un panthéisme, d'accord, mais c'est Dieu est posé, si vous voulez. Ça serait presque mal poli de lui demander des raisons, de vérifier s'il existe ou pas. Vous voyez. Et donc, cet enthousiasme religieux est dangereux, parce qu'il n'est pas éclairé. Vous voyez. Et je crois qu'il y a un reliquat de stoïcisme pratique dans le christianisme de toutes les époques, mais particulièrement de la période qui suit la réforme, et ben, c'est comme ça. Dieu, ben, c'est tellement, ah Dieu, il est là, Dieu est partout. Vous allez voir, on part de Dieu, ce qui est idiot, on arrive à Dieu. Bon. Avec la raison naturelle, on ne part pas de lui. Bon. Et donc, ce truc-là est très mauvais. Donc j'irai, attention, mais méfions-nous des gens pieux. Attention. J'ai encore descendu qu'une bière entière, non, toute la tête, mais des gens pieux à la con, c'est-à-dire qui approfondissent pas leur foi et qui ne l'éclatent pas. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Hein. On n'est jamais trahi que justement par un excès dans ce qu'on croit être juste. Oui. Et alors, alors quand on arrive à ça, c'est que arrivé au moment où le christianisme est le monothéisme le plus performant, qui est comme le christianisme, c'est toujours les juifs, bien entendu. Mais enfin, l'islam n'était pas encore né, le christianisme a pris le terrain, celui de l'Occident, a reçu l'héritage de l'Antiquité, et bon, s'est constitué, et puis, à partir de là, dans il y a cette espèce d'excès de ferveur, vous voyez, qui a marqué un peu l'ambiance de certains milieux chrétiens, en particulier Spinoza et Descartes, qui sont en fait partie de l'absolu. Pour eux, Dieu, c'était le point de départ, même philosophiquement, et ils ont voulu, en fait, traiter les choses, même philosophiques, d'un point de vue théologique, en partant de Dieu. Et donc, ce serait trop long de rentrer dans les détails de ça, mais c'est impressionnant de voir, si vous voulez, que pour... Il y a une sorte de panthéisme, chez Spinoza, bon, Dieu, c'est tellement important que Dieu, c'est l'être, Dieu est tout, Dieu ou la nature, disait-il, voilà. Et Descartes a quand même... avait un Dieu qui ressemblait beaucoup au Dieu de Spinoza, bien que c'était quelqu'un qui était profondément soucieux de Dieu, hein. Descartes n'est pas du tout athée. Mais le problème de ces gens-là, vous voyez, c'est qu'ils partent tellement de l'absolu, ils partent tellement de l'esprit, que le contact avec l'existence qui nous est donné toujours au travers des sens est perdu. Et ça, c'est la catastrophe. Et en fait, si vous lisez dans la dernière feuille, je vous ai mis une référence d'un bouquin de Brut Berger, et dans ce bouquin, c'est son dernier bouquin d'ailleurs, il insiste beaucoup sur la responsabilité de Descartes, c'est la feuille du dernier café cathé. Ceux qui n'ont pas eu peuvent me donner leur adresse, je leur enverrai. Il insiste beaucoup sur le fait que Descartes est vraiment à l'origine de cette coupure, puisque ce messier des sens, il est obligé de partir de l'idée de la pensée. Alors je vous ai mis une belle citation là du père Pessac, qui est un remarquable métaphysicien, qui a beaucoup étudié la philosophie moderne, et qui montre très bien que si on prend le parti de douter de tout, sauf de la pensée, et c'est celui de Descartes, oui, mais qu'on veut quand même que Dieu existe, parce qu'il voulait que Dieu existe, peut-être pas uniquement à cause de l'Inquisition, hein, c'est pour ça qu'il allait être réfugiant de l'arme, enfin bon, ou d'Inquisition, ou de la police royale, etc. Mais qui ça plaisait moyennement quand même à l'époque. Hein. Et donc, mais je pense qu'il voulait que Dieu existe, vous voyez. Donc, vous dites, bon, on part de la pensée, l'essence, tout ça, donc l'existence, celle qui nous est donnée dans le concret, sensible, c'est quelque chose de... C'est presque ça, si vous voulez. Donc, il reste un seul moyen, et bien c'est la preuve ontologique. Puisque vous êtes obligé de partir de « je pense », donc vous dites « je pense à un être parfait », donc cet être parfait existe, vous voyez. Il reste toute la preuve ontologique, que j'ai critiquée rapidement la dernière fois, parce qu'elle est extrêmement faible, elle part de l'idéal, si vous voulez, d'une abstraction, au lieu de partir de l'être. Cette abstraction est tirée de l'être, bien entendu, mais il faut partir de l'être lui-même. C'est ça la clé de toutes les choses. Et en fait, quand on va à l'étranger, qu'on dit ah, « vous êtes français, donc vous êtes cartésien », alors les gens croient que c'est un compliment, mais pour un philosophe comme moi, c'est extrêmement désagréable d'entendre ça. Enfin, je pense qu'ils veulent dire « vous êtes logique, enfin, vous cherchez le maître. » Ah, je ne suis pas cartésien du tout, bien entendu. Parce que Descartes a jeté l'anathème sur l'essence, et il est vraiment le père de la pensée moderne, en sens qu'il est parti de la pensée, voulant vraiment des intentions, si vous voulez, spiritualistes. Je pense, donc je pense un être parfait, donc cet être parfait existe, et il reste plus que la preuve ontologique qui est fausse. Qui est fausse. C'est qu'elle séduit beaucoup de gens. Il y a un regain actuellement, soit un milieu catho, la preuve ontologique. D'ailleurs, je ne parle pas de cette largement de Saint-Anselme, c'est un peu autre chose, l'ambiance ontologique. Mais la preuve vraiment ontologique, qui prétend inférer Dieu de la pensée, est fausse. Point à la ligne. Elle ne conclut pas. Et donc, quand arrive derrière, il ferme la porte. Il montre que ça ne marche pas. Alors, ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais ça s'est passé comme ça. Parce que quand, question d'être systématique, il était très systématique, et il a vu que cette preuve ontologique avait le défaut, si vous voulez, précisément, de rester dans l'idéal, et donc ça ne marchait pas pour conclure à l'existence d'un être vrai. Et donc là, on est dans une situation de catastrophe. Parce que vous voyez, quand arrive après Descartes, quand exécute la métaphysique, et si vous exécutez la métaphysique, vous exécutez Dieu. Naturellement. Il ne reste plus que la foi. Donc, mais ça, c'est dangereux. Quand vous avez la foi et que la pensée ne suit pas, eh bien, c'est la cata. Assez vite, hein. C'est du bruit, ça peut être du fidèle. On en parlera tout à l'heure. Bon. Alors, donc, alors quand, voilà, Kant dit, bon, bah, comme il faut quand même Dieu, on attend la fin pour les questions. Hein. Je suis un peu maniaque, mais. Kérali a demandé qu'on pose les questions au milieu pour reprendre son souffle. Mais moi, ça va. Je peux tenir jusqu'au bout. Et voilà, on n'a pas le même type de débit. Puis peut-être que je bois plus de bière que lui. Bon, donc Kant a dit, on va postuler Dieu. Parce que pour Kant, c'est tellement évident qu'il y a une loi morale, qu'il y a une obligation de justifier la loi morale, et il a bien senti que l'obligation, à ce moment-là, ça marche si on pose un certain nombre de choses qu'il appelle les idées de la raison pure, dont Dieu, et l'immortalité de l'âme, un certain nombre de choses. Mais évidemment, vous rendez compte du caractère fragile de la chose. Cette morale-là, moi, je l'ai encore vue, vous la voyez pratiquement plus, vous, sauf si vous connaissez des très vieux profs de fac, retirés maintenant, qui ont plus de 65 ans, mais des gens moraux et kantiens, enfin, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a de moins en moins, quoi. Moi, j'ai vu en 68, en particulier, bon, ben, on a un peu fait alliance avec eux, parce que pratiquement, ils étaient contre la chienlit et la destruction de l'humanisme, mais ça a été une vraie catastrophe. Parce que ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé pourquoi? Parce que derrière Kant arrivent des gens qui vont, d'une part Hegel, et d'autre part, à la suite de Hegel, Marx d'un côté et Nietzsche de l'autre. Hein. Donc arrive Hegel. Alors Hegel, alors là je rentre pas dedans parce que si vous rentrez dans le système d'Hegel, il faut beaucoup de travail. Et si vous voulez vraiment le comprendre, vous risquez de chauffer vraiment les durites de votre cerveau sont mis à rude épreuve. Je connais un évêque, qui est le plus grand spécialiste européen de Hegel. Il a étudié ça à fond. Il a compris, il a fait une dépression. Là, il s'approche qu'il a compris. Il a arrêté, maintenant il est dans le spi, enfin dans d'autres choses aussi, mais et il se calme, il a fait d'autres choses. Donc. Non, mais Hegel est un grand bonhomme, mais il ne rentrait pas dedans. Hein. Enfin bon. Voilà. Alors Hegel, il voit l'absolu comme le résultat, si vous voulez, parce qu'il dit quand même cet absolu de Kant et tout, c'est un peu arbitraire. L'absolu est engendré par le devenir, quoi. Donc l'absolu est le terme de quelque chose. Alors il fait toute une construction absolument énorme, fantastique, la dialectique, enfin, il réduit tout au logique. L'absolu est au fond le Dieu et le terme d'un certain devenir. Et obnubilé par ça, il fait un système absolument énorme qui fascine, qui a fasciné la pensée des intellectuels catholiques encore un peu maintenant, en particulier quelqu'un comme Fessard, un grand jésuite et d'autres, et qui ont introduit ça dans l'Église entre 45 et 85, et bonjour les dégâts. Et encore aujourd'hui, pas mal de séminaristes sont instruits avec une philosophie imbue d'Hegel, et c'est une catastrophe. Le père Pessac, que je viens de citer, a fait un magnifique travail, l'influence hegelienne dans le nouveau sacramentaire. Et je crois que c'est vrai. Récemment, je lisais, il y a un type qui est un jésuite. Alors évidemment, vous allez dire, c'est parce qu'il est un jésuite que vous l'attaquez. Pour les jeunes, je précise que les dominicains plaisantent avec les jésuites, mais c'est réciproque. C'est bien. Bon. Mais enfin, on se tape dessus, ça entretient l'amitié. Bon. Alors, un type qui était provincial, a été provincial des jésuites quand j'étais à Ginette. Donc c'est pour ça que ça m'a frappé. Mais à ce moment-là, toutes les provinces de jésuites étaient unies. Il a été assistant d'un grand maître jésuite. Et alors il a écrit ses mémoires. Alors c'est extraordinaire parce que lui, l'extase, c'était 45, les idées nouvelles, la théologie nouvelle, la Fourvière. Ensuite, 62, le concile, l'ambiance du concile, plutôt les textes m'intéressent moyennement. Et puis, c'est comme ça s'intradit. Ils se foutent un peu des textes, mais l'esprit du concile ne leur plaît pas, donc ils sont mal dans leur basket, quoi. Et puis 68, alors là, il délire encore plus sur 68. Et c'est frappant de voir un type comme drôlement intelligent, parce qu'un vrai jésuite, c'est des gars, c'est cultivé, enfin vous en connaissez c'est quelques-uns, surtout les vieux, hein, ils ont quand même de la carrure, qui est là comme un gamin dans cette répression infantile qui est 68, à dire, ah qu'est-ce que c'était grand, quel souffle frais, etc. Enfin, bon, c'est extraordinaire. Et alors le passage qui m'a intéressé, c'est qu'on explique qu'au fond, ce qui s'est passé dans l'Église, dans la crise de 60 à 65 à maintenant, si vous voulez, c'est en fait un mouvement hegelien. Donc évidemment, on broie des gens et... il faut broyer ces mouvements, thèse, antithèse, synthèse, pour aboutir à une synthèse. Il faut casser, évidemment, on va vers l'inconnu, on va vers le nouveau. Une pensée purement hegelienne qui justifie le dégât. Et un jour, j'ai un évêque qui m'a dit, certes, on a été trop vite, on a cassé la liturgie, mais on ne pouvait pas faire autrement parce que sinon, ça ne serait pas passé. Et donc ça, enfin, je vous le dis pour faire de la polémique, hein, parce que sinon, je ne fais plus de café caté, quoi. Et donc, mais c'est qu'une réalité, quand même. Je ne sais pas, tous les évêques sont comme ça. Enfin, juste qui m'a dit ça, et c'est sympa par ailleurs. Hein. Mais je veux dire, c'est comme une réalité, tu vois, en arrière-fond, c'est des gens qui, s'ils ont eu de la philosophie, ce qui n'est pas toujours le cas, c'était plutôt hegelien, quoi. Donc, si vous voulez, et puis la position marxiste, c'est ça, hein, peu importe les bruits de l'histoire, on avance. Bon. Donc, Hegel, voilà, il y a l'absolu, mais l'absolu est le terme d'un devenir. Alors là-dessus, arrive Feuerbach et ensuite Marx, qui disent arrêtez vos conneries. Enfin, ils disent ça en allemand, quoi. Pour comprendre ça, il faut bien parler l'allemand et il faut de temps en temps nager dans une piscine de Coca-Cola. Hein, parce que bon, les Allemands, quand même, là, il faut bien dire que entre Kant et puis les derniers qui ont. Bon, j'aime bien les Allemands. Hein, bon. Alors, donc, lui, Feuerbach et Marx, ils disent écoutez, arrêtez votre mystification. Quoi. Que ce soit les Hegeliens de gauche et les Hegeliens de droite, vous êtes tous dans l'absolu et tout ça, dans le pur logique, vous oubliez complètement l'existence. Vous oubliez le concret, le sensible. Alors, ils reviennent au sensible. Ils reviennent au sensible, mais malheureusement, ils réduisent le sensible à la matière et à l'histoire. Et en particulier, Marx a cette phrase célèbre, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le changer. C'est-à-dire arrêter de penser à des choses impossibles, puisqu'on voit bien avec la dialectique hegelienne que c'est des abstractions. Pensons aux choses concrètes, ne cherchons pas à résoudre. Marx est radicalement anti-métaphysique. Pour lui, c'est un péché, si vous voulez, la spéculation. Il explique que, d'ailleurs, quand vous avez une révolution marxiste, les premiers qui passent à la casserole, c'est les intellos, quoi. Parce qu'ils sont dangereux en tant que tels. Alors, lisez tous les récits de persécution en marxisme. En tant que tels, ils sont dangereux. Parce qu'ils rappellent justement le primat de la contemplation sur l'action. Bon, et eux, ils disent, ça suffit, on n'arrive à rien. Le réel, c'est le matériel. Alors, il y a une chose de vraie. Pour nous, tout le réel est accessible par le matériel. Et c'est l'homme, c'est l'histoire. C'est vrai aussi. Mais ils obnubilent là-dessus, et ils réduisent l'être à une de ses facettes. Et donc, on tombe dans le matérialisme. Et là, l'humanisme, si on peut appeler ça un humanisme, parce que les marxistes, c'est plus, ça rappelle ça à l'humanisme. Bon, eh bien, l'humanisme athée est fondé par ces gars-là, et qui disent qu'il faut rester au niveau horizontal, pour organiser les choses, et il faut écarter Dieu, qui nous gêne pour ça, qui est un opium, qui n'apporte rien au problème. Voilà, et on voit bien que les gens comme Kant et Hegel, qui ont voulu sauver Dieu, ont fait que tromper les gens. Et alors ça, c'est la position de Marx. Et puis, il y a celle de l'autre zigoto, qui est Nietzsche. Alors, Nietzsche, vous voyez, il reprend un des trucs hegeliens, ils sont tous très influencés par Hegel. Hegel est vraiment une des clés de la pensée moderne, et Hegel en particulier avait une pensée assez curieuse, qui part d'une chose juste, vous voyez, mal comprise. La théologie classique nous dit que le vendredi saint, Jésus-Christ est mort sur la croix, vous voyez, et Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est Dieu, ce que dit les conciles nous disent, l'un des trois personnes de la Trinité a souffert. Est mort. Mais il est mort, il a souffert selon son humanité. Donc c'est très important de distinguer la personne et la nature. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est une seule personne qui est Jésus, qui est le Verbe éternel, qui a la nature divine, qui ne souffre pas, et la nature humaine qui va souffrir et mourir. Et c'est ça le mystère chrétien. Il faut donc tout tenir. Et donc il y a la fameuse méditation de Hegel qui dit, oui, il y a le vendredi saint, Dieu est mort, qui en théologie catholique peut se dire, Dieu est mort selon l'humanité en Jésus qui est sur la croix. Et alors là, il commence à faire sa dialectique. Et il fait ce qu'on appelle le vendredi saint spéculatif, le vieux dieu des autres, des scolastiques, va mourir pour passer dans son antithèse et pour engendrer dans son propre devenir un troisième truc qui sera le dieu à moi, le dieu de Hegel, qui est mon dieu, quoi, si je veux dire. Et alors, il a fait son truc complètement, enfin, il faut s'accrocher hein, pour essayer de le suivre, mais c'est le fameux vendredi saint spéculatif qui a frappé les penseurs. Mais alors, Nietzsche, il dit, mais attendez, on va aller beaucoup plus loin. Parce qu'on va vraiment tuer Dieu. C'est-à-dire que Nietzsche dit que ce n'est pas simplement les machins de Hegel, c'est qu'en fait, il faut prendre une décision, et il faut que nous tuions Dieu. Et parce qu'il gêne, si vous voulez, l'homme, si Dieu existe, l'homme est gêné. Si Dieu existe, l'homme ne peut pas être libre, vous voyez. Il n'est pas créateur, et donc il faut le supprimer. Et donc le fameux Dieu est mort, qui à l'origine était presque un texte de concile, qu'ensuite chez Hegel devient un vendredi saint spéculatif. Bonjour les dégâts intellectuels, mais enfin bon, c'est un dieu dialectique qui se passe dans son propre contexte, etc. Et on arrive au dieu est mort, l'assassinat perpétré par Nietzsche et ses copains. Enfin, il y en a quelques autres qui étaient en coup, Schopenhauer et quelques autres. Mais je vais vous lire un passage parce que le danger de Nietzsche, c'est que il écrit bien. C'est un vrai prophète. Hein. Il a écrit des trucs absolument hallucinants sur, sur justement le, au moment où il tue Dieu, n'est-ce pas? Comment nous consolerons-nous, nous meurtriers entre les meurtriers, ce que le monde a possédé de plus sacré et de plus puissant jusqu'à ce jour, a saigné sous notre couteau. Et je vous ai mis une phrase ici de lui, où il dit en fait, ce qui, c'est notre goût qui décide contre le christianisme, ce ne sont pas des arguments. Qui nous nettoie de ce sang, quelle expiation, quel Dieu sacré sera nous forcé d'inventer? La grandeur de cet acte est trop grande pour nous. Enfin, il a compris, en fait, Nietzsche est comme un des pères de la contemporanéité, parce qu'il a compris que cette suppression de Dieu allait faire rentrer soit vers le surhomme, alors il y a quelques-uns, dont Adolphe et ses copains, qui ont essayé cette voie-là, soit vers la négation de l'homme. D'ailleurs, il dit, nous ouvrons la voie au nihilisme. Et je crois qu'on est plutôt dans un sens dans cette deuxième voie, maintenant que les grands totalitarismes sont tombés. Mais il avait vu ça. D'ailleurs, il a prédit qu'en Europe, il y aura un bain de sang. Il a prédit ça à la fin du 19e siècle. Pendant que Dostoïevski précisait qu'il y aura un bain de sang en Russie de son côté. C'est vraiment impressionnant, oui, comme quoi c'est comme des types qui... Alors il y a un passage, pour que l'homme soit vraiment grand, véridique créateur, il faut que Dieu soit mort, que Dieu soit tué, qu'il soit absent. En le privant de Dieu, j'apporte à l'homme l'immense don qu'est la parfaite solitude, en même temps que la possibilité de la grandeur et de la création. Écoutez, c'est extrêmement impressionnant. Comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Donc ça c'est Nietzsche qui parle de son meurtre de Dieu. Qui nous a donné une éponge pour effacer tout l'horizon? Ouais, il sait quand même écrire. Hein, qu'avons-nous fait quand nous avons détaché la chaîne qui liait cette terre au soleil? Ne tombons-nous pas sans cesse, etc. Ne fait-il pas plus froid? Ne vient-il pas toujours des nuits, de plus en plus de nuits? On dirait qu'on arrive à une sorte de d'onirisme et de surréalisme qui en effet a envahi, j'aurais pu appeler ça l'art, enfin de, ce qui sert d'art à partir d'un certain moment. Et en fait, je crois que c'est puissant, oui, il y a une ivresse, parce que une des grandes idées de Nietzsche, c'est que Dieu est consolant, il ne faut pas être consolé. Et sachez que les gens qui ont fait l'expérience de l'athéisme basculent souvent à cause de ça. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une ivresse à la grandeur, si vous voulez, de la solitude radicale, qui est une sorte d'autodamnation consciente, par rapport à, je dirais pas la dépendance, parce qu'en Thomiste, le mot dépendance pourrait être équivoque, on va croire que c'est un esclavage, par rapport à la relation de sagesse et d'amour avec Dieu. Et c'est une chose réelle. Donc Nietzsche a eu beaucoup d'impact, et en particulier, il a une responsabilité importante sur, évidemment, la période du milieu du XXe siècle en Europe. Donc vous voyez, voilà les différents athéismes, enfin, un peu la genèse de l'athéisme moderne, qui vient donc en monothéisme, en christianisme, par un excessif enthousiasme religieux qui néglige la spéculation, et dans la spéculation, un mépris de la matière. Je suis persuadé que le spiritualisme est le responsable principal de l'athéisme. Oui. Et le matérialisme marxiste est une sorte de retour, presque, je dirais, de retour de bâton contre le spiritualisme excessif et l'idéalisme de Hegel. Et donc Berdaïev conclut, là où il n'y a pas de Dieu, il n'y a point d'homme aussi. Alors c'est un des grands thèmes de la prédication de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui connaissent tous ces auteurs. Et actuellement, Benoît XVI a écrit une fois, je ne sais plus où, a dit dans un de ses interventions, il a dit, écoutez, autrefois les philosophes disaient, le monde peut tourner, accideus non daretur. C'est-à-dire, on peut se passer de l'hypothèse Dieu, hein, je crois que c'est un scientifique du 19e qui a dit ça, on peut se passer de l'hypothèse Dieu, c'est-à-dire répondre à Napoléon qui dit, où est-ce qu'est Dieu dans votre système? Ben, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Bon, accideus non daretur. Et alors, Benoît XVI, en montrant ce qu'est le monde sans Dieu, il a dit, écoutez les gars, enfin il parle évidemment, j'ai pas le même pense que lui, grâce à Dieu. Et alors il dit, écoutez, vous voyez ce que ça fait si on agit comme si Dieu n'existait pas. Donc, même si vous n'y adhérez pas de cœur, agissez accideus daretur. Il dit, l'état actuel, les sociétés actuelles doivent agir accideus daretur, et ça fait de mal à personne. Parce que précisément, ce que j'en parlais dans le TGV avec le père Rivoire en venant, et on se disait, parce que bon, c'est vrai que toutes ces choses-là sont délicates, mais quand on regarde en gros, hein, et dans l'expérience d'une vie, on a quand même le temps de parler avec des gens, quand même, de différentes nationalités, de différentes cultures, et bien c'est vrai que le spectre qu'on a avec des gens, sur 100 personnes, si vous voulez, enfin, moi, ceux que j'ai rencontrés, je sais pas, mais disons que dans le fait de ceux qui sont croyants, ou agnostiques favorables à la croyance, parce qu'ils disent, ben, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais c'est bien, et j'y arrive pas, et j'envie ceux qui arrivent. Vous voyez, il y a même des athées dans les modernes qui étudient qu'étudie Morero, là, notre cher frère dominicain, qui disent, ben oui, moi je suis athée, mais je veux pas supprimer la croyance des gens qui croient. Et ben ça, si vous voulez, vous arrivez à 85, 90, 95% de l'humanité. Vous voyez, l'athée décidé, agressif et destructeur, il est quand même extrêmement minoritaire. Et certains d'entre eux ont dit qu'en fait, c'était vraiment... Il y a Nietzsche qui parle de la conquête difficile de l'athéisme, quoi. Et je crois que c'est vrai. Donc il faut dire aux gens, il ne faut pas reprocher à Charles Maurras d'avoir voulu remercier l'Église des bienfaits temporels qu'elle avait. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut lui reprocher, mais pas ça. Je trouve très étonnant qu'on l'accuse d'hypocrisie. Vous voyez, moi, je connais beaucoup de gens qui sont agnostiques ou qui ont du mal à croire, ou qui croient mais qui n'ont pas le courage de vivre comme des chrétiens, mais qui disent vive le christianisme. Est-ce qu'on va les accuser d'être des hypocrites? Non, mais il faut vraiment... Ça va pas. Ils ont raison de dire ça. Il faut les aider à cheminer, si vous voulez. On dit que c'est un instrument de pouvoir pour ceci. Non, c'est pas des Voltaire. Ces gens-là n'affirment pas des choses comme Voltaire. Ils affirment des choses au stade où ils en sont. Voilà. Alors, bon, j'ai un peu développé ce point parce que bon, c'est une introduction plus historique, mais je crois que ça met bien un peu le cadre, la toile de fond de la suite. Alors dans la suite, on va analyser, mais peut-être assez brièvement pour l'un d'entre eux, trois séries d'arguments qui sont tirés donc des dernières attaques depuis 95-96, Dawkins, Onfray, dans le genre enragé, si vous voulez, contre Spongile, dans le genre plus soft. Hein. C'est distingué. Et alors bon, moi évidemment, c'est pour ça que j'ai obligé de faire un survol, parce que j'ai pas eu le temps de dire leur offre complète et leur réfutation. Il y a une réfutation d'Onfray qui est nulle, qui est pire qu'Onfray. Et donc parce que c'est bon. Et vous dites que vos objections viennent du fait que vous pensez que Dieu est tout puissant, mais pour le chrétien, Dieu n'est pas du tout puissant. Bon, là on arrête parce que moi je meurs de rage quand je pense ça. Donc et c'est pas celle-là qu'il faut lire. Vous voyez comme je suis charitable. Hein. J'ai même pas dit le nom de là. Et puis une autre qui est beaucoup mieux. Bon. Et puis il y a surtout cet article de Morero qui est absolument remarquable, qui fait un survol. Morero est en train de préparer, c'est le doyen de la faculté évangélique à Rome, il est en train de préparer un livre sur la thèse. Et donc ces gens-là, maintenant, il y a une sorte de regain, si vous voulez, avec le Da Vinci Code et toutes les autres machins, il y a une regain, en fait, d'athéisme et de l'antithéisme, et surtout de l'antichristianisme. Ça semble quand même assez caractéristique que ces gens-là sont très souvent antichrétiens. Alors leur truc, c'est de dire, premièrement, la religion est immorale. Deuxièmement, il est impossible de prouver de quelque façon que ce soit qu'il y a une cause transcendante du monde. Et quatrièmement, la religion, de toute façon, peut s'expliquer par des perspectives purement humaines. Voilà. Et il y a un autre point très important que traitera Périvoire au mois de mai, c'est l'objection du mal empêche l'existence de Dieu. Donc ça, on consacrera un café caté spécial pour ça. Et nous, on va essayer de survoler, puis peut-être après, on verra les questions, les réquisitoires, ou du moins une partie des arguments, mais évidemment, je ne prétends pas que le détail de chacun des arguments qu'ils disent, c'est ça. Hein. Je fais un peu comme Pachandi a fait Saint-Pédis, il a regroupé, il a dit voilà, la tendance générale c'est ça, et c'est foireux. Et c'est très pervers. Parce que si on lit Pachandi aujourd'hui et qu'on écoute certains sermons, on dit tiens, c'est marrant, c'est la même chose, sauf que là c'est condamné, et là c'est affirmé. Alors, encore un coup de polémique, c'est insupportable, c'est devenu. La religion est-elle immorale? Ça, ça m'a fait un peu rigoler quand j'ai vu ce truc-là. Parce que moi je me disais, ben non, même quand j'étais agnostique, la religion c'est quand même un truc, c'est plutôt moral, parce que je voyais, moi, les cathos que je voyais, les juifs, les musulmans, tu vois, ils seraient plus moraux que moi. Enfin, c'est peut-être pas très difficile, mais enfin bon, ils disent quand même des gens moraux. Ben non, il paraît que c'est immoral. Alors c'est surtout Onfray qui est champion là-dedans. Alors je vous le refais pas, parce qu'il suffit d'ouvrir le journal, ou certaines revues de soi-disant d'histoire, ou certains, bon, vous prenez, et tous les machins. Alors surtout ce qu'il faut, c'est que vous... Parce que je pense qu'une des premières conditions de l'accès à la pensée et à la métaphysique et à la théologie, c'est la liberté historique. Donc soyez fort en histoire, démerdez-vous. Il faut lire les historiens, on a depuis 30-40 ans des historiens contre-réformistes, il faut les lire. Ils démolissent toutes les conneries des autres, et là-dessus on est gagnant, et il faut les lire absolument. Même il y a quelqu'un ici, je ne dirais pas quand je suis arrivé à Café Gâté, qui m'a dit, mais j'ai vu une émission sur les cathares. Les dominicains n'étaient pas un peu... J'ai oublié un peu, ouais. Les cathares à l'inquisition n'étaient pas un peu inquisiteurs. Je dis si, si. Il dit, quand même, j'ai dit, attendez, je vous apporterai de la doc là-dessus la prochaine fois. J'ai apporté de la doc, et c'était le chapitre de Sevilla là-dessus, historiquement correct. Puis il m'a dit, c'est remarquable, hein. C'est Sevilla qui a raison. Donc il avait une belle émission pour dire des conneries sur les albigeois et les cathares. Donc à vous de vous documenter là-dessus, moi on ne peut pas faire tout go, mais je crois que c'est une des clés. Parce que c'est là où il y a vraiment des mensonges, et ces mensonges peuvent être démolis. Par exemple, on parlait justement de l'actuelle tentation de supprimer les juges d'instruction, et l'influence du droit de l'Église sur l'existence des juges d'instruction, bon, ben, ça vient très probablement du droit inquisitorial, qui est un énorme progrès par rapport aux autres droits civils de l'époque, comme c'est reconnu par les auteurs juifs compétents. D'ailleurs, l'Inquisition n'avait pas juridiction sur les juifs, je le précise pour les ignorants. Alors donc, il y a un réquisitoire effrayant. L'Inquisition, bon. Les religions, alors c'est tout le monde. Le grand truc, premièrement, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Depuis les chiites jusqu'aux carmélites, même combat, déjà. Donc déjà, ça simplifie le problème. Hein. Donc évidemment, c'est clair. Alors les religions, même s'il n'y a pas d'extrémistes, elles sont toutes extrémistes dans leurs racines, parce qu'elles sont persécutrices et essentiellement ennemies de l'intelligence et des femmes. Ça, les religions sont ennemies des femmes. Bon, c'est un grand truc qu'ils ont trouvé. Et les clergés, alors là donc elles sont donc persécutées, et les clergés, et les fondateurs encore plus, sont en fait des imposteurs. Enfin, vous savez, Voltaire avait écrit les trois imposteurs, hein, Moïse, Jésus et Mohammed, Mahomet, trois imposteurs. Et puis le clergé sont des exploiteurs professionnels. On vit de l'illusion des gens, on les entretient dans le mensonge, et comme ça ils donnent à la quête. Ben, n'oubliez pas de mettre ça en bas là. Même si je dis déclamé, j'essaie de nourrir ma communauté. Donc c'est une autre solidarité, presque à la limite CCMD. Alors bon, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'enfin il suffit d'ouvrir. Dawkins en particulier est un homme nubilé. Pour lui, il y a un lien essentiel entre la foi et l'irrationalité. Alors moi, quand j'ai lu ça, je suis tombé des nues parce qu'un jour ici dans ce café caté, il y a un type qui me dit, parce que j'avais parlé de ma période non catholique, bon, non chrétienne, non rien, non athée, et il dit, mais pourquoi vous êtes revenu au catholicisme précisément? J'ai réfléchi, je lui dis, parce que c'est dans le catholicisme que je trouve le plus de raison. Alors quand j'ai lu que Dawkins nous dit la foi est associée à l'irrationalité, j'ai été complètement renversé. Et en particulier, le Dieu de l'Ancien Testament, pour eux, est un sadique, est intrinsèquement violent, et la religion est quelque chose d'intrinsèquement violent. Alors évidemment, ils voient les religions, hein, ce que j'ai mis après, vraiment par une lunette unique. Hein. Moi, j'ai étudié le bouddhisme, l'islam et un certain nombre de trucs, et je n'étudiais pas uniquement ce qu'il y avait de mal dedans. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la foi, donc j'étudiais pour voir ce qui était vrai. Donc quand vous voulez voir si un truc est vrai, vous regardez tout. Quand personne n'a étudié les mystiques des différentes religions, il a pris les meilleurs dans chaque religion. Et on fait le match sur les meilleurs. Et dit, tiens, c'est marrant, c'est les chrétiens qui sont bons maintenant. Pourtant, il n'a pas négligé les mystiques de l'islam ou d'ailleurs, oui. Donc il faut prendre, voilà. Et donc il y a un manque d'objectivité absolument frappant. Et en plus, ce qui me frappe dans les critiques, en particulier de la soi-disant violence des religions, bon, d'abord elles sont en grande partie fausses, mais en plus, critiquer au nom de la non-violence, c'est en fait faire un acte qui est enraciné dans l'évangile. Parce que récemment, je voyais, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, il y a une certaine part de force ou de violence qui est admise, quoi. Le fait qu'il faut diminuer la violence au maximum est une conquête de les raisons naturelles sous l'influence du christianisme. C'est absolument évident. Si vous étudiez l'histoire partout, chez les animistes, chez les hindous, etc., c'est absolument évident. C'est une conquête, et en fait on combat l'Église avec ce qu'elle a elle-même libérée comme force, en faisant défier ça. Oui. Donc c'est vraiment une attaque vraiment très pleine d'ignorance coupable, hein, parce que Da Vinci Code, ça a été fait avec du copier-coller sur Internet, ou pas loin, enfin vraiment, c'est une ignorance coupable, parce qu'il suffit d'ouvrir un peu les livres d'histoire pour se convaincre que l'influence des religions, même en prenant les moins performantes sur les hommes, bien sûr il y a de la violence, d'accord, il y en a, il n'est pas totalement évacué, mais d'ailleurs on ne peut pas l'évacuer totalement, cause du péché de l'homme, ou parce qu'il y a une part de force qui est nécessaire aussi dans la vie des hommes, bon, et que les modernes appellent violence, ils appellent violence toute force. Toute coercition, c'est une violence. Ce qui est faux. Bon. Alors, voilà. Et donc, ça, mais en plus, on voit bien que l'influence des religions, c'est pas uniquement la violence, quand même, non? Je sais pas, tous ceux qui ont été en Inde le savent, non? Ou qui ont vu le sourire de Sakyamuni, ben, c'est pas, vous êtes quand même impressionnés. C'est une influence religieuse. Pourquoi il a sourire, cette espèce de compagnie? C'est comme aussi la douceur, la paix, la sérénité, même dans une religion, enfin, qui est à peine une religion, enfin, quelque chose d'assez faux sur beaucoup de points. Donc l'influence de la violence, c'est complètement nubilatoire de dire que c'est de la violence uniquement. Ensuite, au point de vue du rapport avec les arts, la culture et tout, une étude un petit peu objective nous montre que, en commençant par les grottes de Lascaux et compagnie, enfin, l'influence religieuse sur les artistes, c'est plutôt positif. En tout cas, l'absence de religion, enfin, je ne suis pas très spécialiste en art, mais enfin, j'ai un copain récemment qui m'a dit, parce qu'il était obligé comme journaliste d'aller dans l'institution d'art religieux moderne, il m'a dit c'était pratiquement scatologique, au moins pour une partie des trucs. Alors je me dis, bon, c'est donc ça n'a rien de religieux, quoi, en fait. L'influence de la religion dans l'art et tout est quand même positif. Enfin, si vous écoutez Mozart ou n'importe qui, ses chefs-d'œuvre ont été faits dans une ambiance religieuse, et pas simplement ça, du christianisme, c'est pareil. Bon, donc il y a quand même vraiment presque une intention de nuire, j'ai cité la légende noire de Pie XII, enfin, qui est quand même quelque chose d'hallucinant, surtout pour quelqu'un de ma génération. qui a connu l'époque où les Goldheimer enfin, venaient remercier au Vatican, enfin, envoyer des messages. Donc c'est monstrueux, la saloperie, si vous voulez, qu'on peut nous envoyer. Justement, là, il y a une intention nocive, et en plus, c'est fou. Voilà. Donc, j'ai mis une citation de Gilson. En fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Gilson, les citations sont encore c'est un peu petit. C'est seulement dans la théologie spéculative judéo-chrétienne. Donc là, il faut connaître que beaucoup de penseurs éminents du judaïsme et du Islam ont aussi travaillé dans cette ligne-là, que se produisit enfin la rencontre et qu'une alliance durable fut scellée entre l'être de la philosophie et le dieu de la religion. Et ça, c'est capital. En fait, c'est en gros, si vous voulez, le thème de Fides et Ratio et du discours de Ratisbonne et un peu indirectement des Bernardins. De Benoît XVI. C'est très très important. Si l'être de la philosophie est distinct du dieu des religions, enfin, n'a rien à voir plutôt, distinct en un sens, mais n'a rien à voir avec le dieu des religions, on est dans un dualisme, on est dans une tension, et seul, justement, ce courant de civilisation a réussi cette convergence, cette harmonie difficile, mais tout ce qui est. Tout ce, enfin, c'est pas parce que difficile que c'est faux, enfin, tous ceux qui ont fait quelque chose de poussé, plus on va, plus on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 100 types avec qui vous pouvez parler quand vous approfondissez une matière. Quelquefois c'est 10, quoi. Et même quelquefois moins, et c'est pourtant pas faux pour autant. Et bien là, il y a quelque chose qui est difficile, mais on se rend compte qu'on va dans la bonne direction, et on arrive à montrer qu'il y a une harmonie et une alliance objective entre la métaphysique et le domaine religieux, en particulier par la preuve de l'existence de Dieu. Bon. Alors là-dessus, je crois que la réponse principale, non seulement de relever les erreurs historiques, mais il y a une réponse de principe. Accumuler la description des défauts, des péchés, des meurtres, etc., des croyants, de toutes les religions, d'abord c'est un peu arbitraire, il faut des fois dans chaque religion, et donc là, je ne fais pas d'effet rhétorique, parce que dans la modernité, ils sont assez faciles à faire. Hein, parce qu'on met toujours les intégristes dans le même sac. Une fois qu'on a réussi à dire que vous êtes intégriste, ben, je sais pas, vous êtes un catho-intégriste, ben, vous avez fait le 11 septembre. Hein, excusez-moi, c'est extrêmement dangereux. Bon. J'ai envie de donner des baffes, mais il paraît qu'il ne faut pas violent. Bon, je ne les donne pas. Hein. On essaie de faire réfléchir. Mais vous voyez, c'est quand même meurtrier des trucs pareils. Il faut faire les distinctions. Bon. Et puis, deuxièmement, même si les gens auront ces choses-là, c'est Consponville qui répond au juste titre, mais écoutez. D'abord, dans les religions, il a été tout à fait admirable, reconnu par même les incroyants. Et puis en plus, si les croyants sont stupides et immoraux, est-ce que ça veut dire qu'ils ont tort de croire en Dieu? Ça veut dire qu'ils vivent en dessous de leur croyance en Dieu. Ils vivent en dessous de la croyance qu'ils ont en un être pur, plein de bonté, qui va les juger. C'est tout. Ils vivent en dessous. Ben, la plupart des humains vivent en dessous de ce à quoi ils adhèrent. D'accord. Je suis d'accord. Et comme dit Consponville, ça veut dire que les religions sont humaines, qu'elles sont composées d'hommes. Voilà. Mais les athées, c'est pareil, hein. Quelquefois, c'est pas mieux. Parce que là, évidemment, on peut discuter un peu à faire de vue, mais moi, je crois quand même que si on fait la moyenne des choses, c'est faux quand on vous dit qu'on pratique ou qu'on pratique pas, c'est la même morale. Ce qui est vrai, je crois, c'est que le péché du chrétien, ou le péché du consacré, est beaucoup plus grave. Donc, en fait, ça va permettre de répondre à une des autres objections, in fine. Il n'y a pas une origine pathologique de la religion pour se rassurer. Parce que le jugement des chrétiens, pour un péché égal, est beaucoup plus sévère que le jugement d'un païen. Parce qu'il avait beaucoup de... Voilà. Donc, mais enfin, moi, je crois quand même que la religion fait monter le niveau de la morale. Surtout quand elle est vraie. Surtout quand elle est vraie. Bon. Et puis, je termine ce deuxième paragraphe en faisant remarquer que ces gens qui disent que la religion est immorale sont eux-mêmes des relativistes plus ou moins immoraux. Pas toujours. Mais un peu. C'est-à-dire qu'elle est immorale en fonction... Alors, ils commencent à dire qu'elle est immorale en fonction d'un certain nombre de valeurs qui tirent pratiquement toutes du christianisme. Premier point. Vous êtes immoraux parce que, ils disent tout un tas de trucs qu'ils ont appris pratiquement en catéchisme, après ils ont oublié le catéchisme. Enfin, en gros, c'est comme ça, quoi. Bon. Et puis après, on est immoraux, pourquoi on est immoraux maintenant? Parce que dire qu'il y a une loi naturelle, c'est dire que les choses ne sont pas toutes relatives, qu'il y a un certain absolu. Même dans l'agir moral, bien sûr, on est pécheur, on est tout pécheur miséricorde, mais il y a quand même des choses intrinsèquement mauvaises. Tuer les gens, c'est pas très gentil, c'est pas très bien. Tuer même quand ils sont bébés dans le ventre de leur maman. Hein. Et les gars, quel est le grand immoraliste qu'on accuse actuellement, Benoît XVI et Jean-Paul II? Ce sont des assassins, car ils sont contre les méthodes physico-chimiques pour empêcher la vie et pour détruire les humains. Quoi. Donc ils sont immoraux. Et j'ai entendu, moi, des gens dire ça explicitement. Hein, ben, Jean-Paul II, assassin, quoi. Alors là, évidemment, ça fait assez plaisir de se faire traiter d'immoraux par des immoraux pareils. L'existence du moi naturel est considérée comme immorale. Si vous dites qu'il y a des choses bonnes, des choses mauvaises, vous êtes un fasciste. Enfin, un fasciste, je ne sais pas si on dit ça encore aujourd'hui. Enfin, un gars velu et méchant. Avec un gros gourdin, et peut-être même que vous êtes nazi éventuellement. Mais bon. Alors, donc, vous voyez, là, ça ne marche pas du tout, hein, parce que il faut savoir aussi, j'ai remis une citation de Pidouze que j'avais mis la dernière fois, tout à la fin de la première page. En fait, dans ce domaine-là, vous voyez, les gens attaquent le christianisme, ou la religion, ou l'existence de Dieu, en vertu d'une morale qui voudrait être la leur. Si vous avez une morale qui permette de faire ce qu'on veut, chacun d'entre eux, pas tout ça. Et donc, évidemment, les gens qui viennent dire, ben non, il y a des choses... Ils sont considérés comme immoraux parce qu'ils atteignent à ce qu'ils imaginent être la liberté des autres. Hein? Parce qu'on accepte difficilement, on se perçoit facilement de la fausseté ou du caractère douteux de ceux dont on ne veut pas que cela soit vrai. Hein? C'est sûr qu'on se perçoit facilement que Da Vinci Code dit vrai, parce que si Da Vinci Code dit vrai, il n'y a pas besoin de vivre selon la morale du Christ, rappelée par l'Église. Voilà. Alors, je termine quand même une petite note, je nuance que ça m'amène, où il faut être assez délicat. En fait, c'est vrai, en un sens, si Dieu n'existe pas, tout est permis, mais il ne faut pas aller trop vite comme en besogne. Hein. Parce que là, il y a quand même une nature d'échevée Socrate, et justement, la pensée qui est arrivée au monothéisme a démoli le polythéisme avec ses propres contradictions, et en passant par la nature des choses. Socrate a fondé la morale sur la chasse des définitions, la recherche de la vertu, et de la vertu fondée sur la nature des choses. Donc Socrate et puis ses petits copains Platon et Aristote, vous avez peut-être entendu parler de ces gars-là, et bien ces gars-là ont quand même rendu un certain service. Alors Confucius faisait d'une façon un peu différente de l'autre côté, plus pragmatique et tout, mais et en fait, même en dehors, si vous voulez, de la notion transcendante d'un dieu qui n'excluait pas, d'ailleurs il semble que Socrate a eu des ennuis aussi un peu à cause de ça, parce qu'il était obligé d'avoir une certaine loi du secret à cause du polythéisme officiel de la cité grecque, mais en fait, ils sont quand même arrivés à fonder une morale sur la nature des choses. Alors évidemment, après, quand on creuse, on s'aperçoit de cette nature, pour obliger absolument, même si ma vie est en cause, je n'ai pas le droit de tuer un bébé. Même si ma vie est en cause. Mais qui va faire ça? Quelques héros, peut-être, mais pas beaucoup. La plupart des hommes, s'il n'y a pas une sanction absolue, et que ce bébé est vraiment l'image de Dieu, et que moi-même, je suis jugé par Dieu qui a créé ce bébé, eh bien, ils risquent de l'exécuter, oui. Donc il faut bien finalement un certain fondement. Mais il ne faut pas quand même dire, il ne faut pas mettre tout le monde, parce que sinon on pousse les gens vers l'absurde, quoi. Et aller à l'absurde radical, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce courage satanique, si vous voulez. Et beaucoup de gens restent dans l'entre-deux, et pas la peine de les pousser vers le pire. Alors Comte Ponville, c'est pas mon copain, hein, mais c'est pour vous dire que lui prétend qu'il y a une spiritualité de l'athéisme. Enfin bon, évidemment c'est fragile, il essaye de sauver Kant, etc. Mais enfin bon, voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas. Ils disent, il y a quand même certains absolus, puis vous apercevez qu'après ils disent comment les fonder, quoi, ils sont gênés. Hein. Mais n'allons pas trop vite, si vous voulez affirmer, tous les athées sont des immoraux. D'autant plus que les gens souvent, c'est de toute façon parce que nous sommes toujours tentés de pharisaïsme. Et les cathos, même dans la polémique catho ou la vie catho ou chrétienne, c'est assez facile de se décharger, si vous voulez, en disant ben toi t'es un athée, t'es immoral. Et si nous on n'est pas au niveau de notre morale, ben bonjour les dégâts. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas explicitement au christianisme, ou même peut-être qui ont une idée très confuse sur Dieu, et pour qui la justice, par exemple, ou la vérité, le refus du mensonge, qui peut être absolument sacré dans des tas de catégories de gens, hein, qui ne sont pas forcément croyants, mais chez certains cathos, le mensonge pieux. C'est-à-dire, en fait, le mensonge plus un sacrilège à notre clé, ou pas loin, quoi. Le mensonge pieux. C'est monstrueux. Et donc, les gars, quand ils voient ça, ben bonjour, c'est ça les cathos, moi je me barre. Hein. Donc, attention, là, c'est un peu vrai, Gaudium et Spes a raison. Hein. Il faut qu'on soit très très prudent, parce qu'il faut être attention en fait des pharisiens. Alors maintenant, pour deuxième page. On va essayer d'avancer, mais évidemment, on ne pourra pas tout détailler. Hein. Alors, quand même, dans les attaques actuelles, ils en arrivent à la question de fond plus spéculative. Vous, les gens, les monothéistes en particulier, vous affirmez qu'il y a un chemin de la raison vers Dieu, donc ce que vous appelez les preuves de l'existence de Dieu en mettant des guillemets partout, parce que c'est des preuves, mais pas des preuves, c'est des preuves métaphysiques, pas des preuves comme on fait dans la science, et l'existence de Dieu entre guillemets, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en dehors du monde, et dont je peux prouver nécessairement que le monde est en relation avec lui. Oui. Et je peux dire ensuite un certain nombre de choses, ce que j'ai mis à la fin de la feuille du café cassé. La dernière fois, c'est-à-dire que lui, il n'a aucune des déficiences qu'on a vérifiées dans le monde, et il a au contraire tout ce que nous avons trouvé de noyau dur, de perfection, de richesse, d'être dans le monde, et bien lui, il l'a, mais dans un mode qui est un mystère. C'est ça la clé des preuves. En fait, les preuves sont unies au mystère. Saint Thomas les appelle des voies. Et les voies, plus on avance avec, moi, ça fait déjà un bout de temps que je bosse sur les voies, les voies de Saint-Thomas, et je ne pourrais pas vous dire combien d'années que je suis dedans, mais plus je suis dedans, plus je trouve qu'elles sont, vraies, c'est juste, mais c'est vrai qu'elles nous font aller de plus en plus dans le mystère, dans la certitude, mais la certitude que précisément Dieu est mystère. Dieu il est, mais le mode selon lequel il est tellement transcendant que plus je vais accumuler les renseignements sur le monde, plus j'aurai indirectement des renseignements sur Dieu qui m'enverront dans l'éminence, si vous voulez, en affirmant qu'il a tout ça, un degré que je ne pourrai jamais dire et enfermer dans ma tête. Et ça, c'est très important, parce que je crois que toutes les preuves ou les soi-disant attaques contre les preuves de l'existence de Dieu viennent qu'on ne les a pas compris. Et qu'on s'imagine qu'on a démontré l'existence d'une machine qui se fabrique elle-même. Un jour, dans un TD de physique atomique, je crois, Orsay, il y a un gars qui, on parlait, je crois, le conseil est venu avec un des types du TD ou d'astrophysique, et il me dit, Dieu, ah non, attends, si tu me fabriques une machine qui se fabrique elle-même, je croirais en l'existence de Dieu. Alors là, j'ai été séché. Hein. J'ai rien pu répondre. J'ai pas essayé de fabriquer la machine. Hein. Mais on a un frère qui est scientifique. Il paraît qu'il y a un gars qui a fait un théorème qui montre que c'est impossible. Mais simplement du point de vue de la science. Hein. Mais c'est assez rigolo. Mais à l'époque, je connaissais pas le théorème. J'aurais pas vu, j'étais incapable de l'expliquer. Mais vous voyez, c'est marrant. Parce que ça, en fait, l'objection fondamentale, c'est de dire, bon, voilà, bon. Alors, Dieu a fait le monde. Dieu a fait le monde. Qui a fait Dieu? Vous voyez, c'est le truc, quoi. Et là, ben, bon, je veux pas trop. Remets le couteau à la tête, parce que vous êtes peut-être très ébranlé, qui a fait Dieu. Et justement, si on dit qui a fait Dieu, c'est que, j'y pense, on n'a pas compris les projections, parce que quand on les comprend jamais totalement, mais on n'a pas saisi le nerf, si vous voulez. Parce que le nerf des preuves de l'existence de Dieu, c'est précisément de dire, voyez, il y a l'univers. Hein. L'univers, c'est pas tout ce qui est, c'est pas tout ce qui existe. C'est tout ce qui est accessible, tout ce qui est devant moi, et que je peux atteindre quand ça bouge. C'est pour ça que je vous ai parlé, j'ai essayé de prendre des images, le réseau des causalités, quand les choses bougent, s'influencent les unes les autres, changent, sont en mouvement, sont étagés, sont plus ou moins comme ci, comme ça. Hein. Il y a tout un ensemble de relations, des êtres les uns sur les autres, dont on n'arrive pas à trouver, si vous voulez, la raison profonde. Et on approfondit ça, pas simplement dans le fait qu'il y a une chose qui est la responsable d'une autre, au niveau, si vous voulez, de ces déterminations sensibles et tout, mais en fait, simplement que ces influences existent. C'est pas simplement, si vous voulez, qu'il y a du mouvement, mais que le mouvement existe dans le monde et qu'il faut aller en dessous des apparences que nous voyons s'influencer, des apparences qui sont fondées sur une réalité plus profonde qu'on a appelée la substance, et donc ces substances s'influencent les unes les autres, et à un moment donné, on se dit, mais cette réalité-là, vous voyez, ne pourra absolument pas avoir ce type d'existence où il y a quand même un rayonnement, une influence mutuelle, si elle n'était pas soutenue dans l'être par un être qui lui-même n'a pas besoin de ce soutien. Et donc ça m'oblige, alors ce qui est très important, c'est que dans le mouvement, même si vous ne comprenez pas le détail, il faut voir le mouvement général. Dans le moment, je regarde le monde et je vais vers Dieu en marche arrière. C'est capital la marche arrière. Là. Vous savez, quand vous bâtissez vos bagnoles, vous avez des créneaux. Mais là, on monte vers Dieu en métaphysique. Je ne monte pas vers Dieu comme Spinoza ou comme Descartes. Hein. Là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil, à Dieu, etc. Alors certains pensaient que Dieu c'était l'être, que Dieu c'est la première évidence de mon esprit. Il y a des mecs qui ont écrit ça, quoi. Chapeau les clowns, hein. La première évidence de mon esprit, c'est Dieu. Mais il y a des croyants qui, ça leur plaît, ça. Il y a des bouquins, là, jusqu'en 1832, dans les séminaires français, on enseignait la philosophie de Descartes. Parce qu'elle était plus spiritualiste, elle favorise le catholicisme. Donc vas-y, si ça marche, on emploie ça. Mais c'est faux. Donc c'est faux, c'est faux. Ah mais c'est spiritualiste, on part de Dieu, qu'est-ce que c'est pieux, quelle connerie. Justement, enfin, on part de Dieu, qu'on casse tout la gueule partout. Non mais excusez-moi, je suis un petit peu direct, hein. Mais bon, c'est pas, mais il ne faut pas me dénoncer à l'exposition. Mais enfin, même si vous me dénoncez, je ne sais pas combien on est pour ça. Mais vous voyez, alors c'est très très grave ça. Parce qu'en fait, on voit les choses, si vous voulez, on se rend compte de à la fois de leur richesse et de leur faiblesse, mais leur richesse et leur faiblesse, on la saisit dans, justement, on saisit l'existence qu'elles ont et cette existence en mouvement. Et c'est la conciliation de ces deux choses-là, se manifestant dans des mouvements mutuels, qui appellent nécessairement une remontée. Mais non, on est simplement vers le terme d'une relation, c'est une fusée spatiale dont on ne voit pas le point d'atterrissage, si vous voulez. Mais on est sûr qu'elle est partie. Et on est sûr qu'elle est dans cette direction. On est sûr qu'elle est dans la direction de l'être, du bien, du beau, de tout ce qui est intrinsèquement positif. Et on est sûr qu'elle dépassera toujours, elle est en dehors de précisément de ce réseau de causalité que je viens d'observer. Donc c'est complètement ridicule de venir me dire, hein, trouvez-moi encore quelque chose de plus dans l'univers que c'est pas du tout ça qu'on a prétendu. On dit pas qu'on a trouvé un super trou noir ou un super machin, une étoile vibrante, etc., qui va expliquer le reste. Ça, les scientifiques travaillent là-dessus et ils n'arriveront jamais à une explication ultime par définition. On arrive de plus en plus à synthétiser les choses, à voir mieux, ordonner, etc. Mais par définition, c'est un petit peu indéfini ce travail-là, mais c'est vrai qu'on fait des progrès fantastiques. Mais justement, tout ce progrès, loin d'éliminer la démarche métaphysique, l'exige de plus en plus, quoi. Enfin, en particulier, on en a dit quelque chose avec le fameux principe anthropique, c'est le réglage des quelques constantes fondamentales de l'univers pour permettre l'élaboration suffisante de la synthèse carbonique, ensuite la vie, etc., et d'une telle improbabilité que c'est une base de démarrage formidable, si vous voulez, que ça nous incite à passer au niveau métaphysique. Oui. Mais il faut passer au niveau métaphysique, l'épreuve ne marche qu'au niveau métaphysique. Donc l'objection qui consiste à dire, si Dieu a causé le monde, qui a causé Dieu, en fait, c'est ne pas du tout comprendre la démarche qui est celle des réalistes, c'est-à-dire on sort en fait de l'univers. Et donc précisément, on refuse la priori de ces gens-là, qui est de dire que le fait d'être causé est coextensif à l'être. Qu'être causé, ça appartient à la nature de l'être, ça appartient à tout l'être. Être causé, ça appartient à tous les êtres que je vois. Et précisément, je démontre qu'il faut quelque chose en dehors des êtres que je vois. Il y a le monde et il y a le non-monde. Il y a l'univers et le non-univers. Le non-univers, les religions l'appellent Dieu. Mais vous voyez, c'est assez subtil, ça. C'est quand même important, hein, parce que je crois que si on arrive à montrer, d'une part, que la preuve est juste, si vous voulez, même si vous ne saisissez pas le détail, on voit qu'on est obligé de sortir du système, parce que jamais à l'intérieur du système, vous n'arrivez à expliquer ce qu'il y a de plus fondamental dedans. Mais pourquoi ces types-là ne veulent pas en sortir? C'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait de l'être dans le monde. Et en fait, c'est parce que pour eux, les choses n'existent pas assez, qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, j'en suis persuadé maintenant. Vous voyez? Parce que finalement, si vous dites, vous êtes dans l'idée, bon, ben, l'être, ben, il est où l'être? L'être, il est quand il nous est donné dans le sensible. Et si vous êtes dans le sensible, mais uniquement le sensible, on va voir les objections de Dawkins, par exemple, ou celle de Marx, le sensible, mais vraiment au sens purement matériel d'agrégation de tas de cailloux, quoi. Ou pour Dawkins, enfin, il y a la géologie, ou la génétique, mais... voilà, ou même pas, parce que lui c'est plutôt au niveau darwinien, enfin admettons la génétique, c'est un peu sa spécialité, mais disons c'est uniquement cet aspect de l'être. Ils refusent de voir l'aspect fondamental, ils sont dans les processus d'explication, mais pourquoi il y a la vie que précisément est contente, pourquoi il y a dans tout ce réseau de causation quelque chose qui fait que ça existe, et bien ça, ils refusent de rentrer là-dedans. Et donc en fait, à mon avis, l'athéisme spéculatif est un arrêt, est une castration, une autocastration de l'esprit. Je dirais pas de la raison, parce que la raison, on peut penser que c'est vraiment des déductions. Bon, la preuve de Dieu, c'est un envol. Hein. C'est un envol avec la capacité contemplative de l'esprit. C'est pour ça que c'est pas réservé aux immenses intellos. Parce que la preuve de Dieu, c'est vraiment, vous voyez, un truc, je veux dire, qu'un poète ou un enfant, enfin, le Père Emmanuel a écrit un très beau livre, la métaphysique pour les saints. C'est vraiment une chose que l'artiste fait presque, ou le poète fait presque instinctivement, vous voyez. C'est la partie de notre esprit qui est en communion avec ce qu'il y a de plus magnifique dans les choses. Et dans nous, il y a ça, il n'y a pas seulement la capacité de faire fonctionner un ordinateur ou de faire un syllogisme. Il y a quelque chose de plus fondamental qui fait que je communie avec le monde et dans ce qu'il a de plus profond que les philosophes appellent l'être. Donc voilà, j'ai vraiment survolé ça parce que je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais à partir de là, peut-être le père Réginald aura à revenir sur la question de la création. Ça fait tomber beaucoup si on rentre. Évidemment, il y a un aspect contemplatif. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est important de prendre aussi du recul dans vos vies, d'avoir des booms ou des retraites ou des temps où vous êtes sans vos portables, sans vos trucs, et vous laissez l'air vous souffler sur le visage, et vous vivez au rythme de la marche, et vous êtes, et puis après vous allez lire un bon bouquin et ça va rentrer beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment important aujourd'hui. Je crois que dans le monde moderne, la retraite est vraiment quasiment indispensable pour le salut des catholiques, dans son sens large, mais il y a des moments où on coupe. Parce que sinon, on est vraiment trop... Vous voyez, c'est ce que disait mon maître, enfin celui sur qui j'ai fait ma thèse. Il disait, il faut convertir l'intelligence de l'homme moderne qui est envahie dans la technique pour qu'elle puisse se retourner vers la contemplation. Et à ce moment-là, les preuves de Dieu deviennent aisées. Parce que, enfin, aisées, disons qu'elles ne sont pas aisées, mais elles sont... On est plus dedans, on est heureux là-dedans. Et alors, ça fait tomber beaucoup d'antinomies, en particulier sur la création, puisque Dieu est en dehors de l'univers, il est aussi en dehors du temps. Donc ça, on viendra peut-être là-dessus quand on parlera de la création. La création, c'est vraiment la communication métaphysique de l'être. C'est pas, si vous voulez, une super équation en plus. C'est pas un rayonnement qui réunirait tous les rayonnements. Et pour Dawkins, le machin absolu, c'est la théorie de Darwin. Ça fait rigoler aujourd'hui, parce que enfin, ça ne peut pas rigoler. Mais il y a beaucoup de gens qui ont montré, même scientifiquement, des faiblesses considérables de la pensée de Darwin, qui était avant la révolution de la biologie moléculaire. Donc, bon. Mais alors, vous voyez, de réduire tout à un aspect, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique, il faut se dégager et arriver au niveau de l'être. Et là, on peut rentrer dans cette perspective de la preuve de Dieu. Donc, surtout, vous voyez, là, des gens qui rendent du très mauvais service comme Descartes, parce qu'il a qualifié Dieu comme étant la cause de lui-même. Dieu n'est absolument pas la cause de lui-même. Dieu est en dehors du problème de la cause. Dieu est la source des choses, si vous voulez, mais il n'est pas dans le problème de la cause comme on peut l'observer ici. Si vous dites que Dieu est la cause de lui-même, on arrive vraiment à une contradiction. C'est la machine qui se rouille elle-même, pas dans le cas. Dieu est l'être avec l'éclair intellectuel éternellement subsistant qui rayonne et qui touche le monde sans être touché par lui. Et qui il met en marche, si vous voulez, mais c'est une image, hein, il met en marche tout le déroulement, la splendeur de l'être créé, sans pour autant subir lui-même la moindre modification. Bon, c'est évident, c'est un mystère, mais bon, c'est la pointe de la métaphysique. Alors, on va terminer la quatrième partie, beaucoup plus facile. C'est de dire, bon, tout ce que vous dites, c'est très bien, mais tout ça, c'est parce que vous êtes malade. Ça se voit dehors, vous êtes passionné, etc. Vous êtes malade, quoi. Allongez-vous là, vous avez eu des problèmes étant petit, etc. Ça va, moi, c'est pas mon cas, bon. Mais bon, alors, est-ce qu'on explique... Alors, le truc, c'est de dire, la religion, moi, je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, je vous ai mis 5 trucs classiques, pathologiques, pour s'assurer devant le néant. Alors là, on exécute ça tout de suite, c'est Comte-Sponville qui exécute, qui dit, l'enfer, c'est plus inquiétant que le néant. Enfin, les deux sont changés, non, quoi. Faut mieux pas aller dans le néant, faut mieux pas aller dans l'enfer. Enfin bon, voilà. Donc c'est dit Comte-Sponville qui est justement un agnostique, un athée. Bon. Alors lui, il dit, non, c'est l'espérance du bonheur éternel qui est le ressort des religions, mais justement, méfiez-vous, c'est trop beau. Alors, on va y revenir. C'est trop beau, hein, on voit. Et d'ailleurs, déjà, c'est dans Nietzsche, hein, tout ça, c'est tout ça dans Nietzsche ou dans Marx. Hein, c'est justement une illusion, on nous propose quelque chose de magnifique. Et c'est la projection de Dieu et la projection de l'homme, de ce que l'homme voudrait être. Alors ensuite, il y a Dawkins qui dit, bon, la religion vient d'une évolution darwinienne, ça c'est l'objection la plus nulle. Et puis, là, les deux derniers trucs sont assez classiques, il y en a une qui m'avait été faite ici il y a quelques années. Les prétendues révélations sont toutes humaines, c'est des inventions de Muhammad, de Yahshua de Nazareth, et puis de type de Setakabi, ou de Shakyamuni, et uniquement, c'est ce que disent les gens. Et puis, en plus... si Dieu voulait se manifester, il n'y a pas besoin de prophète, etc. Il n'a qu'à faire coucou à chacun directement. Ça, c'est une des questions qu'on m'avait posées ici. Pourquoi Dieu se manifeste pas de façon évidente à tout le monde, cela, quand on a 18 ans, on a 78 ans, coucou Dieu, on passe un contrat, CDI, etc. Et puis le ciel, tel frappantin, machin, ou bien non. Alors voilà, bon, tout ça, c'est vraiment une caricature. Mais il faut quand même rapidement dire un mot de ça. La première, c'est que c'est vrai qu'il y a une relation très forte entre la religion et la mort. On le voit, puisque dans les critères un peu anthropologiques ou paléontologiques, pour savoir si on a affaire à un grand babouin ou à un humain, s'il y a des rites funéraires, c'est quand même plutôt un homo assez sapiens sur le bord. C'est ce qu'on pense. Mais je dis des rites funéraires, hein. Pas seulement le cimetière des éléphants. Bon, donc il y a une relation entre la religion et la mort. Mais ça ne suffit pas à régler le problème. Parce que même s'il n'y a pas de survie, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans l'au-delà, il y a une religion. Dans l'Ancien Testament, c'est frappant de voir que l'immortalité de l'âme et les récompenses éternelles sont beaucoup plus vers la fin dans les livres sapientiaux, les derniers prophètes, qu'au début. Et donc au début, il faut être dur comme fer en Dieu, et voilà. Même s'il n'y a pas de... si on ne s'intéresse pas très bien, ce qui se passe après la mort. Et donc c'est quand même très primaire de dire les gens croient pour se rassurer. Bon. Alors deuxièmement, le gros argument, alors ça c'est assez finaud, de Comte-Sponville, c'est un finaud. Comte-Sponville dit, voilà, si je vois une annonce dans un journal, il y a un appartement là, côté du Luxembourg, ou à côté de l'Étoile, hein, 250 mètres carrés, 100 euros par mois, ou 50 euros par mois. Alors, on dit, c'est une arnaque. Logique, hein. Bon, là, je suis d'accord jusque-là. Enfin, disons, c'est probable que ce soit une arnaque, quoi. Mais vous voyez, dit donc, on me dit, ah, il y a un dieu. Bon, en plus, il est bon, tant mieux, c'est pas un dieu manichéen. Et puis, etc., si on est juste, on a le paradis tout. Non, attends, c'est trop beau. Alors, moi, ça ne me convainc pas, mais je vous le cite, le truc. C'est trop beau, donc c'est pas vrai, quoi. Mais vous voyez, ce genre de truc, c'est vraiment pas spéculatif, quoi. Parce que je sais pas, moi, je trouve que E égale MC2, c'est trop haut pour être vrai. C'est très à vous, hein. Ou l'équation de Schrödinger, ou le machin qu'on va trouver, qui va peut-être. Si on trouve un machin, bon, je sais pas quoi, ou Mozart, ou. Enfin, vous, vous avez besoin d'avoir d'autres références, le frère qui connaît beaucoup mieux la musique, le père. Mais vous voyez, il y a des trucs, quand vous voyez, c'est trop beau, quoi. Je sais pas, moi, j'étais à Rome récemment, mais. On est époustouflé, quoi, de la colline où était Saint-Dominique, on voit Rome, on dit, mais arrête, quoi. Puis même, il paraît que pour explorer ça, il faut toute une vie humaine. Enfin, bon, c'est trop beau, quoi, même Paris, c'est trop beau, comme la plus belle ville du monde. Il y a Franche-Touillard sur les bords. Mais non, mais c'est trop, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, quoi. D'ailleurs, même, vous voyez, même en droit, enfin moi, il me semble tout que j'ai vérifié dans ma vie, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Si vous pensez que le vrai doit toujours être vraisemblable, ben, vous ne faites rien, quoi. Le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et puis, quelquefois, vous arrivez dans la vie des trucs invraisemblables. Bon, donc un truc formidable, c'est peut-être pas quand même faux. Bon. Et alors, en plus, c'est vrai que ça correspond à des dires humains, d'accord, mais il y a d'abord des sacrifices aussi. C'est pas uniquement pour aller au ciel, c'est comme pas. Ça ne se fait pas avec les doigts dans le nez. Donc, les gens attirés par le. D'accord, la récompense, mais aussi tous les sacrifices à faire. Donc, ça contrebalance. Hein. Et puis, en plus, le désir de vie mortelle est un indice, pour saint Thomas, c'est un indice très fort de la spiritualité, de l'éternité de l'âme. D'avoir un désir de vie mortelle, mais ce n'est pas une preuve apodictique. Et les preuves sont fournies par ailleurs. Donc, ce n'est pas la raison du fait que nous affirmons que Dieu existe. La raison qui fait que nous affirmons que Dieu existe, c'est qu'il y a un monde sensible. Et ce monde sensible nous révèle l'être. Mais c'est capital. Il faut vraiment affirmer l'être pour remonter vers Dieu. Voilà. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas cette vie éternelle, l'homme est assez absurde. Et en ce sens-là, bon, Sartre et Camus sont l'aboutissement logique de l'humanisme, si j'ose dire. Si j'ose dire, l'humanisme moderne. Parce qu'il y a une dose d'absurde. Si vraiment il n'y a rien qui correspond à ce désir qui est tellement enraciné en nous, il y a une dose, ça ne prouve pas Dieu. Mais quand même, c'est quand même, ça pousse à réfléchir en tout cas. Alors ensuite, troisièmement, le schéma darwinien. Bon, je saute parce que là, c'est plus nul. Bon, il y a ça darwinisme, mais pourquoi il y a des choses qui darwinisent? Mais moi je pense, d'ailleurs j'ai écrit un article pour vous énerver, dans le dernier numéro, pour énerver les fondamentalistes, et c'est qui s'appelle un regard thomiste sur l'évolution. S'il y a de l'évolution, il y a encore plus besoin de Dieu au point de vue métaphysique. Alors allez lire mon article, abonnez-vous, ça arrive d'amis pour vous, même vous offrez le numéro si vraiment vous êtes très pauvre. Mais donc ça m'impressionne absolument pas. Alors ensuite, bon, dernier point, l'exclusion a priori de la révélation divine. Parce qu'on dit les révélations sont humaines. Il ne peut pas y avoir de révélation divine. Ça, c'est une position qui est déjà dans les Lumières, chez Voltaire et un certain nombre d'autres salopards de la même espèce. Il y a Dieu, qui fait tourner le truc, et puis il y a les exploiteurs, les imposteurs, parce que s'il y a Dieu, il ne peut pas parler. Pour ces messieurs, la perfection, c'est de la boucler, quoi. Il peut surtout pas, il n'y a surtout pas un Dieu qui se plaît à être adoré, vous voyez. Ils sont nuls, ces types-là, mais nuls. Pour eux, Dieu, c'est un espèce de roi Haroun el Poussin, qui est sur son coussin. Enfin, encore lui, il est gentil, mais encore plus, il est méchant, quoi, parce qu'il se plaît à ce qu'on l'adore quand il en avait besoin, etc. Et qui écoute les prières comme si c'était ben, une faiblesse. Enfin, ça, c'est vraiment, ils sont nuls. Comme non-métaphysicien, Voltaire, on fait vraiment peur pour nous. Bon, alors, nous, c'est évidemment pas ce que nous prétendons. Alors, eux, ils disent, s'il y a un Dieu, il ne peut pas parler, il ne peut pas écouter les prières, il ne peut pas. Et surtout, il n'est pas provident. Alors, saint Thomas nous dit explicitement que la racine de la prière, c'est l'affirmation de la providence. Si les juifs, les musulmans, les chrétiens prient, c'est parce qu'ils savent que Dieu s'occupe un minimum des gens, quoi. Et que donc, on peut lui téléphoner de temps en temps. Il y a un peu des moments où c'est un peu encombré, de l'autre côté du moins, mais enfin, évidemment, ça passe. Il y a deux choses à lui dire principalement, hein, c'est pardon et merci. Je vous file le message, et vous pouvez mettre en français. Je n'ai pas besoin de résumer en petit chinois comme vous faites dans vos machines. Bon. Alors donc, on ne peut pas être rapproché. Moi je trouve que c'est une espèce tous ces mecs-là sont des casse-têtes, quoi. Parce qu'ils veulent pas, ils cassent l'esprit, qui n'a pas le droit de dépasser le domaine des phénomènes, qui ne peut même pas arriver à la substance, surtout pas le droit de sortir de la science de l'univers. Et ensuite, si un Dieu existe, eh bien il ne peut surtout pas avoir les qualités que moi j'ai. J'écoute les gens, enfin j'essaye, je leur parle, etc. Je leur rends des services que je peux. Ben non, Dieu, pas le droit. Bon. Dieu est bien au-dessus de tout ça. On me dit souvent ça. Ouais, vous les gars, vous c'est Jésus. Mais Jésus, Mahomet, Bouddha, tout en. Dieu, il est beaucoup au-dessus de tout ça. Là. Enfin, je vois l'espèce de gigantesque hydroglisseur mou, fantastique un peu là. Dieu est bien au-dessus de tout ça. Bien au-dessus de tout ça. Franchement, c'est assez extraordinaire. En fait, il y a un mépris de Dieu là-dedans. Ils se font une espèce de. Je sais pas qui c'est, Dieu, c'est un espèce de Goldorak spiritualisé. Ou de. Je sais plus Goldorak, mais là, je ne suis pas très au courant. Mais qui c'est, Superman qui se balade et qui détruit, et qui est plus fort que les autres, et qui tombe dans un continuum de l'espace-temps. Mais bon, mais c'est grotesque. C'est vraiment grotesque. Donc, c'est irrationnel d'exclure la possibilité d'une révélation. Et puis, dernier point, évidemment, il y a des éléments humains dans la révélation. Mais précisément, ça, c'est le christianisme, beaucoup plus que l'islam, qui pour lui, ça tombe d'un bloc, hein. Il y a la révélation, la Quran, ça veut dire qu'on va réciter qui tombe physiquement en quelque sorte. Et on récite, si vous voulez. Hein. Et Mohammed, c'est vraiment comme un instrument purement physique, si vous voulez, qui transmet. Tandis que dans le christianisme, c'est ce qu'a expliqué le pape au Bernardin, devant les musulmans et les juifs, qui ont fait ça avec attention. Est-ce que justement l'élément humain est capital? C'est ça qui a fondé l'Occident. C'est qu'on a, on a écouté la parole, on a vu que c'était des hommes qui l'avaient écrit, et on a essayé de voir l'élément humain, etc., comment ils ont écrit, ce qu'ils ont voulu dire, ce que Dieu a dit, etc. On a approfondi les pères de l'Église, etc. Voilà. Et donc, c'est pas du tout contradictoire. Dieu inspire des instruments humains qui ont chacun leur personnalité. Et c'est génial. Le christianisme, c'est génial pour ça. Dieu ne détruit pas le prophète. Parce qu'évidemment, c'est embêtant d'être prophète parce qu'on est complètement volatilisé. Mais non, là, il existe, c'est tout. Donc voilà. Donc il y a des éléments humains, c'est pas contradictoire. Et enfin, dernier point. Donc l'histoire qu'il faudrait que Dieu. Que Dieu se manifeste à chacun de façon évidente. Alors là, je crois qu'il y a comme une négation de l'essence de Dieu. De même que le pape a pu dire au discours de Ratisbonne, qui était mal compris, mal interprété, qu'il se soit un discours anti-rationaliste. D'accord, anti-musulman, oui, une partie de l'islam. Et il a dit, il citait l'empereur théologien byzantin, qui disait faire croire par force, ou enfin la violence au service de l'adhésion religieuse, est contraire à l'essence de Dieu. Magnifique. Contraire à l'essence de Dieu. Eh bien, sommer Dieu d'être à nos ordres, c'est que s'il existe, il ne peut pas, répondre. Mais dans la tentation du désert, il ne va pas soutenir les pieds d'un espèce de fou qui se jetterait du haut du pinacle. Les anges viennent après quand le Messie obéit à la loi de Dieu. Gratuitement. Et si Dieu existe, il n'est pas à mon service. Voyez. Il y avait autrefois des prédicateurs athées. Moi, j'ai connu la fille d'un prédicateur athée. C'est-à-dire un gars qui faisait des conférences pour prouver l'inexistence de Dieu. Et elle s'est convertie miraculeusement, grâce au scapulaire vert, on en parlera un peu. Bon. Et alors il disait, voilà, si Dieu existe, clac, il a 3 minutes pour me foudroyer. Puis, oui, 3 minutes, t'es pas foudroyé. Vous voyez, Dieu n'existe pas, les gars. Moi, j'en conclue que Dieu existe, quoi, parce qu'il n'est pas au service de ce malade. C'est pas un saltimbanque, Dieu, c'est pas le chef Barnum, quoi, pour rigoler, pour, ah, il existe, donc il intervient. Donc, en fait, vous voyez, c'est con. En fait, il y a suffisamment, vous voyez, ça, c'est un aspect assez émouvant. Alors, quelques années de sacerdoce permettent de mieux le toucher du doigt, mais chaque homme a son chemin. Pour être sauvé, il faut croire que Dieu existe, qu'il est rémunérateur de ceux qui cherchent. Mais on ne connaît pas où en sont les gens dans leur chemin. Il faut les aider à progresser. Et en fait, Dieu éclaire suffisamment les gens pour qu'ils posent à l'instant où ils sont, s'il y a des agnostiques dans ceux qui m'écoutent, écoutez bien, avec la lumière que vous avez, il y a un autre pas à poser. Que vous voyez maintenant pouvoir poser au terme de ce café caté, posez-le. Mais pensez pas au troisième ou au quatrième. C'est pas la peine. Marche dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires, dit Saint-Augustin. C'est-à-dire, tu as une lumière, c'est celle-là qui doit mettre en marche, et après on verra. Et donc c'est comme ça. Et comme la foi est nécessaire au salut, Dieu donne à chacun des grâces, qui s'il est fidèle à cet échelonnement de grâce, l'amène à la foi, au salut, d'une façon quelquefois mystérieuse, mais enfin, réelle. Et donc il y a Dieu ensuite, quand il meurt, peut voir la validité morale de sa réponse ou pas. Donc voilà, c'est pas contraire à l'essence de Dieu que de proposer une révélation publique, externe, et pour ceux qui ne sont pas atteints par elle, il y a des suppléances, il y a des révélations intérieures, etc., il y a des chemins, mais chacun a son chemin pour aller vers la vérité de Dieu. Merci de votre attention.
Objection contre l'immoralité de l'Église, c'était les papes. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le pape est d'avoir prié, je sais plus ce que c'est, mais
oui.
L'intervention de le pape est d'avoir prié, j'ai déjà entendu, et généralement, c'était parce qu'il interdit le préservatif, et c'est ça qui est plein de morts du silence.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on considère qu'il est immoral de prescrire une conduite que le fait qu'il a conduite morale. Donc on accuse d'immoralité l'Église alors qu'en fait, ce qu'elle fait est moral. Parce qu'on inverse la notion de la moralité. Non mais je suis d'accord. Deuxième question, lui-même.
J'avais déjà entendu une objection qui disait que on ne pouvait pas savoir s'il y avait une réalité parce que on ressentirait exactement la même chose si on avait simplement notre cerveau et des fils qui sont connectés pour transmettre les informations.
On ressentirait la même chose si on avait un cerveau avec des fils.
Oui, avec uniquement les fils, il n'y a pas de réalité, pas de corps, juste...
Pas de réalité en dehors de nous.
Oui, juste des... Même si on n'existait pas, avec des fils, on pourrait faire croire qu'on existe et que donc on ne peut pas affirmer qu'on existe.
Je ne comprends pas l'objection. Parce que c'est une objection onirique, je dirais. C'est-à-dire que ça va pour une BD ou pour un roman noir, mais en métaphysique, si on n'existe pas, les filles n'existent pas non plus, on peut pas même émettre l'objection. Le problème de ces objections, c'est qu'elles peuvent même pas être émises, si vous voulez. Si vous considérez que l'homme est une réalité telle qu'elle n'est pas en communion avec le monde qui l'entoure, eh bien vous devez vous taire. Parce que vous communiquez avec moi par des sons, par une langue qui est chargée de sens à cause d'une éducation. Et donc notre communication suppose l'existence des sons, etc. Et donc celui qui écarte ça peut aller dans son île déserte, mais il ne peut pas me parler pour me dire tu n'existes pas.
Mais il n'y a pas de preuve de l'existence parce que quelque chose est dehors aurait pu nous mettre simplement...
Non, justement, mais je suis d'accord, il n'y a pas de preuve de l'existence parce que l'existence n'a pas besoin d'être prouvée. L'existence est vécue par le composé humain qui est à la fois spirituel et sensible. Une donnée. Donc elle n'a pas besoin d'une preuve avec un raisonnement pour arriver au terme. Évidemment, si on évacue ça, c'est fini. Et je ne pense pas que des fils puissent se substituer parce que, justement, cette objection, si c'en est une, est une vraiment est très mécaniciste. C'est-à-dire qu'elle, d'abord, elle nie la spécificité du vivant parce que la sensation humaine est d'une complexité extraordinaire. C'est un mélange d'intellectualité et de vie avec une perfection. Il semble que l'homme soit vraiment le plus perfectionné au point lui-même de la sensation. Donc elle néglige complètement la radicale autonomie, originalité de la vie par rapport au vivant, à la réalité purement chimique. Donc déjà, scientifiquement, elle ne porte pas. Allez-y, oui.
Je voulais tourner ça, mais vous avez dit tout à l'heure que les voies d'existence de Dieu sont plus accessibles...
Que les voies de l'existence de Dieu sont plus accessibles à l'âme du poète, enfin disons en un sens, oui.
Parce que vous mettez en relation avec ce qui est plus beau dans l'être,
oui.
Est-ce que dans ce cas-là vous revenez pas un peu à Spinoza et est-ce que la métaphysique ne doit pas être un peu plus rare
C'est bon. Mais non, je suis d'accord. Là, je suis fusillé. Non, mais l'ordi d'un café-café, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas... Allez, la sensibilité est très importante parce que je peux connaître l'être que par ma sensibilité. Mais ma sensibilité pénétrait d'intelligence. Et l'intelligence, de pénétrer d'esprit, si vous voulez, intelligent. Et ensuite, il y a tout un processus. Vous pouvez acheter mon bouquin, il coûte 46 euros. J'écris le processus. C'est pas une blague, hein. Justement, j'écris le processus. Et je montre que dans la pensée humaine, vous avez plusieurs aspects. Il y a absolument, d'abord, le démarrage sensible. Et ensuite, le raisonnement, une certaine intuition. Et puis, une communion avec l'être qu'on néglige trop souvent. Et c'est cet aspect-là que j'ai mis en lumière dans ma thèse. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Je suis tout à fait d'accord que la preuve de Dieu est une preuve rigoureuse, scientifique, mais au sens où la science là est une sagesse. C'est-à-dire que ce n'est pas une science au sens des sciences physiques ou mathématiques, mais c'est une science tout à fait juste, mais une sagesse. Donc elle est rigoureuse, mais je veux dire qu'elle va marcher avec un processus tout à fait exigeant, scientifiquement, mais on y sera insensible si on n'a pas une certaine ouverture du cœur que j'ai imaginé être plus fréquente chez les poètes. Mais peut-être que je me trompe.
Chez les...
En métaphysique, on part, si vous voulez, de l'être qui nous est donné, et l'être nous est donné toujours dans la médiation d'une nature. Or, les natures sont accessibles à l'homme par la sensibilité. Donc, on ne part pas purement et simplement de l'intelligence. Parce que sinon, ça, c'est le démarrage cartésien. Donc, vous voyez, c'est important quand même de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un aspect tout à fait rigoureux, mais je veux dire que pour faire fonctionner cet aspect rigoureux, il faut avoir une certaine ouverture du cœur profond, du cœur au sens de Pascal. En fait, le cœur au sens de Pascal, c'est la dimension contemplative de l'intelligence. Et ce qui a asséché les preuves de Dieu, c'est qu'on a, à mon avis, oublié cette dimension-là. On en a fait une sorte de syllogisme, un peu comme un syllogisme mathématique.
Mais dans ce processus, peut-être considérer la sensibilité comme du côté de la foi et après l'intelligence du côté de la démonstration.
Non, je pense pas.
Et après, le tout donne le foi et que...
Non, je pense pas, parce que le terme de la preuve de Dieu, c'est pas la foi. Le terme de la preuve de Dieu, c'est dire il y a une cause de l'univers.
Oui, justement, c'est qu'après la foi, c'est
la possibilité. Voilà. Non, mais je crois que confondez sensibilité, il y a deux sens du mot sensibilité. Oui, la sensibilité dont je parlais, c'est les sens qui nous permettent d'être en connexion avec le monde, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est pas la sensibilité au sens de sentimentalité des jeunes filles, quoi. Non, c'est pas écrit. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Peut-être que mon exemple était trop rapide. Hein. Les poètes sont des métaphysiciens à l'état sauvage, voilà. On s'est rétabli, ils sont à l'état sauvage. Il y a une métaphysique incoative dans la vie, dans la poésie, c'est pas une métaphysique. Mais c'est vrai que le drame souvent, c'est que quand un métaphysicien a en plus une certaine dimension humaine et poétique, il arrive à communiquer. Sinon, il reste enfermé dans ses bouquins, quoi. C'est moins... Allez-y, n'hésitez pas. Vous m'entendez là dans l'escalier là? Oui? Merveilleux.
Dans la cave.
Est-ce que vous avez eu un résumé? Non? Ah ben, il y en a à l'entrée encore, les résumés. Il n'y en a plus? Les prenants. Mettez les résumés à côté du tronc. Il y avait encore une autre question, oui.
Une objection qu'on entend souvent aussi, c'est nier l'existence de Dieu à cause des malheurs qu'on voit dans le monde.
Oui, alors ça, c'est au mois de mai. C'est là que c'est le mal. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Voilà. Donc c'est au mois de mai. 20h30, premier mardi de mai. Oui, c'est l'objection la plus répandue. Oui,
une troisième question qu'on repose là-dedans, c'est l'orgueil. Moi, je n'ai pas l'orgueil de dire, de décider si Dieu existe ou non.
Non, moi non plus.
J'ai pas l'orgueil de prendre position sur la question.
Moi j'ai mis des années à arriver à cette conclusion, c'est pas, je crois pas que c'est de l'orgueil, c'est un chemin. Parce que justement l'orgueil, c'est très moderne ça, c'est-à-dire qu'on met la personne avec ses petites décisions au milieu de tout, il y en a un qui décide que Dieu existe, l'autre décide qu'il n'existe pas. Vous voyez? Et en fait je pense, je vais vous dire, moi je pense qu'à part s'il y est, si vous voulez, en un sens quand même entre le refus de Dieu et le mépris de l'homme. Très souvent ces gens-là veulent réduire l'homme à être un tube digestif, ou un producteur, ou un homme inscrit dans l'histoire pour Marx, ou bien purement végétatif pour Dawkins et compagnie, c'est des gens qui méprisent l'humanité totale. Je crois que c'est pas de l'orgueil, si vous voulez, c'est simplement que... Parce que sinon, on n'aura pas non plus l'orgueil d'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que c'est purement une réaction de vos globules, ou de vos neutrons, ou de vos... Il me semble, j'oserais dire que dans l'amour humain, il y a quand même une dimension spirituelle. Ah ben moi, j'ai pas l'orgueil de penser que je suis capable d'aimer spirituellement. Et il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont comme ça. Et qui n'osent pas, finalement, jouer l'aventure de l'amour humain. Et donc, ben, ils n'aiment pas, ou ils ratent leur truc, quoi. Mais c'est grave, donc ils ratent une, parce que c'est essentiel, quand même.
Mais c'était simplement pour ce que l'on peut essayer. Que l'on peut essayer de répondre à ces gens-là. Que tout constat comme une objection contre la foi.
Eh ben, moi je répondrais, écoutez, que même s'il y a des choses difficiles, arriver au terme d'un chemin exigeant n'est pas de l'orgueil, c'est de l'effort, c'est de la discipline. Oui. Quand on a réussi à pondre des trucs en science extraordinaires, avec des siècles d'efforts. C'est-à-dire, moi j'ai pas l'orgueil de penser que Newton a raison, ou que c'est pas un orgueil, tu dois penser que Newton a raison, puisque si tu lâches un truc, ça tombe comme il a dit. Non mais, je suis désolé, et puis Einstein aussi, sur son prothèse, il n'a pas le temps d'en parler. Mais je veux dire, c'est pas de l'orgueil, tu comprends pas tout, mais il y a des gars qui le comprennent, tu leur fais confiance. Déjà, dans ce maintenant, on peut faire ça. Parce que c'est pas de l'orgueil que d'adhérer au réel, vous voyez. Et Dieu, et le terme auquel m'amène l'enquête sur le réel. D'autres questions, n'hésitez pas, s'il y a des questions. Pas du même, quoi. Benoît, une question. Et après.